je me présente. Donc, je suis Claire Strugala, je suis magistrate. Oui, on est comme au karaoké. Je ne suis plus en juridiction, pour que ce soit clair, parce que voilà, si vous attendez de me demander qu'est-ce que vous ferez dans tel dossier, alors un magistrat ne peut pas se prononcer pour l'ensemble de ses collègues, c'est une première chose. Deux, moi je suis au ministère de la Justice, et parmi les questions qui faisaient partie de mon portefeuille, c'était le suivi de la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, donc l'IA Act qui a été adopté l'année dernière, ainsi que la convention sur l'intelligence artificielle à Strasbourg qui a une coloration plus droits fondamentaux. Donc moi je suis plutôt sur la réglementation de l'outil. Et ce que je peux également apporter comme expertise, c'est la manière dont le ministère de la Justice et les magistrats se saisissent de la question. Moi, j'ai juste une question pour vous. Combien de personnes utilisent de l'IA dans leur vie professionnelle dans cette salle ? Donc finalement, pas tant que ça. Alors, ChatGPT, on le sait. Oui, après, si vous parlez de copilote, mais pour le coup, je parle d'une IA qui va vraiment vous apporter une expertise dans votre métier, de la radiologie, du traitement de pièces, de procédures, enfin, de dossiers médicaux pour votre travail. Donc, on voit qu'il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'IA. Mais nous, c'est pareil en matière de justice. Ben, vous en avez deux sur cette table qui l'utilisent. Quand j'en discute avec mes collègues, il n'y en a pas. D'accord. De la même façon, chez les avocats, vous parlez à des gros cabinets d'avocats parisiens, oui. Vous allez en province, c'est quand même beaucoup plus résiduel, leur utilisation. Donc, est-ce que ça signifie qu'il ne faut pas se poser de questions ? Non. Mais j'ai envie de dire qu'il faut aussi se rendre compte qu'on est encore en phase de déploiement, que ce soit le déploiement des outils ou que ce soit la réglementation. Et les questions que vous vous posiez sur quelles règles s'appliquent à moi quand j'utilise une IA, eh bien c'est strictement l'objet de l'IA Act qui a été adopté en 2024 et qui va s'appliquer pleinement, normalement, s'il n'y a pas un stop the clock, parce qu'aujourd'hui c'est une réglementation complexe qui peine encore à aboutir dans ses applications pratiques. Mais normalement, le 2 août 2026, vous, professionnel de santé qui utiliserez une IA dans votre activité professionnelle, vous y serez soumis. Et donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que les IA que vous allez utiliser, elles devront avoir été certifiées. Donc, comme tout un tas de produits que nous utilisons en matière de médicaments, de jouets, d'autres biens qui comportent un risque, eh bien, ces outils-là vont avoir subi un certain nombre de vérifications quant à leur fiabilité. Donc, alors, autant vous dire que ChatGPT n'en fera pas partie. On va être sur des outils qui vont être développés pour les secteurs dédiés et qui permettront surtout, et c'est en fait ça la clé, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir de risque zéro et de fiabilité à 100%. Pour l'IA, on vous l'a expliqué, c'est intrinsèque à la machine, comme c'est un système probabiliste, à un moment donné forcément il va y avoir des erreurs. On sait aussi, et c'est l'effet boîte noire, qu'il a une capacité d'auto-entraînement, ce qui fait qu'à un moment donné il va faire des corrélations qui vont aboutir à des résultats erronés. Nous, en matière de justice, on a des exemples, alors pas en France, mais aux États-Unis. Donc, en fait, on peut pas être certain de la fiabilité des produits. Mais en revanche, ce qu'on peut garantir, c'est la traçabilité de la manière dont ces produits ont été conçus et dont ils sont suivis. Et en cas de responsabilité, en cas d'erreur, eh bien, c'est toute une documentation qui sera extrêmement utile. Donc, pour que vous compreniez, toute l'IA ne va pas être réglementée par cette réglementation européenne. C'est uniquement les IA à risque pour la santé, pour la sécurité et pour les droits fondamentaux. Donc, vous en faites partie et moi, magistrat, j'en fais partie. Pas les avocats. On a considéré que c'était uniquement les IA utilisées par l'autorité judiciaire dans l'application de son rôle juridictionnel. Je ne parle pas des tâches administratives. Et là, vous voyez qu'il y a quand même une différence aussi. Si vous l'utilisez d'un point de vue administratif, ce n'est pas la même chose que si vous l'utilisez dans votre pratique professionnelle de diagnostic et de suivi médical. En tout cas, pour nous, juristes, on fait une distinction. Pour les magistrats uniquement, dans leur activité qui va avoir en fait un impact qui va être effet de droit sur les parties, donc l'arbitrage et la médiation en fait également partie, nous sommes soumis à cette réglementation. Mais tout le conseil n'en fait pas partie. L'expertise à ce niveau-là n'en fait pas partie. Donc, question, quelles règles vont s'appliquer à vous? Eh bien, c'est ce qu'a très bien expliqué maître tout à l'heure, c'est que vous êtes tout de même soumis à vos obligations déontologiques, vos obligations d'expert, et parmi ces obligations, vous avez l'explicabilité de votre raisonnement. Donc, alors après, je vous parlerai de toutes nos réflexions, nous, en matière de droit. Aujourd'hui, il n'y a pas d'IA, encore une fois, pour l'autorité judiciaire. Nous y réfléchissons, nous le développons, et toute la question probatoire est une grosse question. Comment est-ce qu'on va pouvoir, sur des dossiers massifs, traiter les preuves? Mais en tout cas, pour revenir plutôt à vous, vous avez donc cette obligation d'explicabilité et de transparence. Et la transparence dans la réglementation IA en fait partie, vis-à-vis de votre patient, vis-à-vis des dossiers que des avocats et des personnes qui seront dans une procédure judiciaire. Et puis j'ai envie de dire que vous avez une obligation de loyauté. Ces outils-là ne sont pas totalement neutres, on le sait. Comme je vous l'ai dit et répété, à un moment donné, et c'est tout l'avantage de ces outils, ils vont réfléchir un peu tout seuls, ils vont faire des corrélations auxquelles ce qui nous évite d'avoir nous-mêmes à les faire. Et à un moment donné, il va aboutir à des solutions qui peuvent être soit donc porteurs d'erreurs, soit biaisées. Si par exemple une IA a été entraînée sur des données qui correspondent à certaines parties de la population, par exemple des Américains blancs, et que vous le mettez en Afrique, si vous êtes sur du génétique, par exemple, on va se rendre compte que ça ne sera pas adapté pour ces populations. Pour l'IA, c'est la même chose. Et donc, selon vos données d'entrée, vous n'aurez pas les résultats qui seront adaptés aux personnes auxquelles vous les appliquerez. Donc, tout ça pour dire que, finalement, qu'il n'y ait pas de régime spécifique vous concernant, c'est pas... Moi, je crois que les grands principes du procès civil comme procès pénal, sont des valeurs et des principes suffisamment forts qu'ils arrivent à s'adapter aux enjeux technologiques. Donc, le principe du contradictoire, ce qui est absolument fondamental, pour moi, est une garantie du fait que si vous êtes vous-même transparent, il y aura toujours possibilité de venir discuter de quelle IA vous avez utilisée, quels sont ces risques d'erreur, parce qu'ils seront censés vous le dire, les concepteurs, quel est le pourcentage de fiabilité de ce qu'ils produisent, et vont pouvoir vous challenger. Et vis-à-vis du magistrat, c'est la même chose, il aura besoin de comprendre comment vous avez procédé. Alors jusqu'à présent, vous étiez tout seul avec votre cerveau et votre expérience à pouvoir faire des analogies et des démonstrations. Aujourd'hui, une IA va venir vous augmenter. Encore faut-il que vous puissiez expliquer, parce qu'elle n'est pas neutre, cette IA, que vous l'avez utilisée, et comment, parce qu'aussi il y a l'avantage de ces IA génératives, c'est toute cette relation. Ce qui est fantastique avec l'IA, c'est le prompt. C'est le fait qu'on puisse discuter avec une IA. Ça nous permet d'avancer dans la réflexion. Mais effectivement, ça s'apprend, parce que si, selon la première réponse qu'elle va vous donner, si vous vous engouffrez dans la première intuition qu'elle vous apporte, le premier résultat, vous allez tout de suite aller dans une direction. Or, je vous l'ai dit, l'IA peut faire des erreurs, peut être biaisée. Donc, entraînez-vous à la challenger. Nous, par exemple, sur un dossier pénal, on pourrait se dire, OK, je vous donne tel élément, telle infraction, telle... Pardon, on m'entend mal. Vous lui donnez tous les éléments de pièce du dossier, l'interrogatoire, première comparution et autres, et il va vous donner une première analyse du dossier qui va vous dire, c'est X, le coupable. Où lui, vraiment, il y a tous les éléments à charge. Eh bien, l'idée, c'est de se challenger, lui demander à l'IA d'aller chercher tous les éléments à décharge dans le dossier. Vous voyez ? Donc, il faut à un moment donné essayer de ne pas se laisser embarquer par l'IA. Parce qu'on ne va pas se mentir, si l'IA arrive dans nos vies aujourd'hui, c'est pour la productivité. Ce n'est pas pour le plaisir de la science ou de l'intelligence. C'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Donc, si c'est pour vérifier tout ce que fait l'IA systématiquement, ça ne sert à rien d'avoir une IA. Donc, en fait, c'est comment faire pour qu'elle nous fasse gagner du temps, mais qu'en même temps, on ne se laisse pas embarquer systématiquement par ce qu'elle va nous apporter comme résultat. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire, mais vraiment, je pense que ce qui est très important et ce qui sera de toute façon obligatoire en tant que médecin à l'application du LIA Act, c'est la transparence, vous, en tant qu'utilisateur. Vous ne pourrez pas le garder par devers vous, sinon vous engagez votre responsabilité. Et je pense qu'en termes déontologiques, il y a vos obligations professionnelles qui viendront vous chercher.